Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Et bonsoir à tous, si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1 pour cette édition spéciale de Punchline consacrée à cette grosse journée de mobilisation populaire contre la réforme des retraites. Paris réussit pour les syndicats avec largement plus d'un million de personnes dans les rues en région et à Paris où la manifestation se poursuit en ce moment, 400 000 personnes, je vous le disais selon les chiffres de la CGT. Une réunion des syndicats doit se tenir un peu plus tard dans la soirée pour décider de la suite du mouvement. D'autres journées d'action seront évidemment prévues, organisées par cette intersyndicale unie. Le président de la République, Emmanuel Macron, est à l'étranger. Il se trouve en Espagne, d'où il a espéré que les manifestations se fassent sans débordement ni violence. Il y a eu quelques heurts dans la manifestation à Paris, mais honnêtement, très peu de heurts pour l'instant. On va faire le point avec vous, William Molinier du service police-justice de CNews. Bonsoir à vous, William.
Bonsoir, Laurence.
D'abord, est-ce qu'on a des chiffres précis de la mobilisation ?
Oui, selon nos informations, les autorités comptabilisées, il y a une heure, 1 million de manifestants en France, chiffre national, mais hors manifestation parisienne. L'objectif du million fixé par les syndicats est donc déjà dépassé en région. Il le sera sans doute plus largement avec les chiffres du cortège parisien. Dans le détail, les rassemblements les plus importants en province se sont tenus à Toulouse, 36 000 personnes, Marseille, 26 000, Nantes, 25 000, Lyon, 23 000. Pour l'instant, donc, aucun chiffre de participation du côté de la préfecture de police à Paris, mais il y a eu une très forte affluence au départ de la place de la République. La CGT annonce 400 000 personnes. Le cortège a mis du temps à se lancer, si bien que la préfecture de police a dû ouvrir un itinéraire bis pour rejoindre la place de la Nation via le boulevard Voltaire. Quelques incidents sur le parcours. Les policiers ont repéré dans le cortège des individus violents et ont tenté de les extraire. Depuis le début de la journée, 30 personnes ont été interpellées à Paris, la plupart pour port d'armes prohibées, outrage et jet de projectiles.
Très bien, merci pour ce point précis. William Molinier d'Europe 1, Jean-Christophe Couvi, vous êtes avec nous du Syndicat National Unité SGP, policiers, manifestants. Vous étiez il y a quelques instants dans le cortège parisien, dans une ambiance bon enfant, évidemment, mais avec un dispositif de sécurité important.
Oui, bah vous voyez, pour un policier, j'ai une double casquette. C'est-à-dire que je suis syndicaliste et j'étais sur le terrain avec mes collègues et avec les manifestants. Et après, je suis venu ici pour expliquer un petit peu, effectivement, comment on le vivait de l'intérieur et comment on vit aussi un policier dans ces moments. Là, parce que vous savez, les collègues qui sont qui travaillent et qui sont justement sur la manifestation employés, nous rejoignent aussi dans l'idée. C'est-à-dire qu'ils font le boulot, ils font le job, mais en même temps, s'ils pouvaient manifester à nos côtés, ils l'auraient fait. Voilà, donc ça, c'est important aussi. Et oui, c'est une réussite. Et moi, ce que je vois, justement, c'est toute cette ferveur qu'il y a eu, en fait, dans les villes en province, où souvent, justement, vous savez, il y a cette petite somnolence provinciale où on a l'impression que le monde est meilleur, qu'on n'est pas trop impacté et que c'est qu'un problème parisien. Ben non. En fait, tout le monde a été mobilisé. Ça a surpris d'ailleurs beaucoup de personnes. Et toutes les petites villes de province se sont mobilisées. Les gens sont allés dans la rue spontanément. Et ça s'est très, très bien passé. Et au contraire, c'est ça que je retiens.
Vous
je
ne
retiens pas
chiffres...
les 200 ou 300 imbéciles
bien
qui
sûr,
veulent juste
qui ont...
se frotter à mes collègues.
Il faut parler de ce qui se passe bien, c'est-à-dire cette réunion. Et cette réussite, évidemment, pour la mobilisation. Vous aviez des chiffres pour les villes de région
hein. Oui, par exemple, alors je
Angoulême,
vais...
je crois.
Angoulême, il y avait 9 000 personnes. J'avais...
Perpignan, 12 000.
Oui, Bordeaux, 16 000. On avait Narbonne, 6 000. Carcassonne, 7 000 personnes. Vous voyez, c'est vraiment Montbéliard, 6 000 personnes. 15 000 à Montpellier, 1 500 à 7, 5 000 à Béziers. Enfin, voilà, c'est tout ce qui me remonte un peu comme ça. 3 000 à La Roche-sur-Yon. Cholet, 3100 personnes. Enfin, on voit que vraiment, encore une fois, c'est des petites villes de province, mais qui se mobilisent beaucoup parce que voilà, les gens sont un carrefour de leur vie et ne veulent pas que des sachants leur donnent vraiment ce qu'ils doivent faire plus tard. Voilà, les chapeaux à plumes, c'est bien, mais les Français ont aussi envie de s'exprimer, d'exprimer leur désaccord.
Et ils se sont exprimés aujourd'hui.
Ils se sont exprimés.
On a été rejoint par Fabien Villedieu, représentant Sudrail. Bonsoir, monsieur Villedieu.
Bonsoir.
La journée est une réussite, la mobilisation est une réussite. On n'a pas encore les chiffres officiels, mais on sera sans doute à plus d'un million de personnes mobilisées. Vous nous aviez dit il y a quelques jours, c'est le seuil minimum pour pouvoir peser dans la suite de ce qui va se passer.
Écoutez, moi, je suis content, hein, j'ai gagné mon pari. Voilà, je vous avais dit il n'y a pas longtemps qu'on passerait le million, on a passé le million. Alors, je ne sais pas exactement de combien.
On attend les chiffres précis.
Mais, et par ailleurs, ce qui est particulièrement, moi, en tout cas, ce que j'ai trouvé marquant, c'est la province. En fait, il y a énormément de sous-préfectures, de petites villes, où c'est vrai, il faut dire ce qu'il y a. Il n'y a pas beaucoup de manifestations. Et quand il y a des manifestations, les copains, ils sont là à nous dire « Ah, on était 200 sous la pluie, c'était terrible. » Là, les gens, ils nous appellent, ils nous disent « On est des milliers, quoi. On n'a jamais vu ça. » Dans des petites villes, des toutes petites villes. Voilà. Alors, on aura les résultats de Paris, mais bon, c'est... Voilà. Mais c'est aussi ça. C'est un raz-de-marée, cette manifestation. Un raz-de-marée. Donc, il faut l'entendre. Et comme je le disais... Peut-être que ça va se confirmer. Je pense qu'on va passer le million. Et quand je vous dis le million, chiffre police.
Oui, oui, vous aviez dit que vous passiez sur les chiffres police.
Eh bien, ça veut dire quelque chose. Voilà. Mmh. On ne le passe pas souvent. On ne le passe pas souvent. Ça se compte sur les doigts d'une main. Mmh. La fois, on a passé un million de personnes dans la rue.
Bien sûr. Qu'est-ce que vous réclamez? Qu'est-ce que les manifestants réclament aujourd'hui? Alors, toutes catégories socio-professionnelles, ils sont dans la rue, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'ils réclament?
Le retrait de la réforme.
Retrait complet de la réforme.
Le retrait de la réforme, voilà. Tout simplement, les gens ne veulent pas travailler à 64 ans. Mmh. Voilà.
Il y en a qui le font déjà, il y en a beaucoup qui travaillent jusqu'à 64 ans.
Il n'y a pas besoin de changer la loi. Hein. Si vous voulez travailler,
si vous voulez travailler jusqu'à 64 ans,
65, 66, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Il y en a, ils le font et
c'est pas vous pouvez, c'est vous devez, avec la durée de cotisation.
Alors, Jean-Sébastien Ferjou du site Altantico, on laisse juste terminer M. Villedieu.
Voilà, donc si vous voulez travailler jusqu'à l'âge que vous voulez, il n'y a aucun souci. Le problème, c'est que là, on vous oblige à bosser jusqu'à 64 ans, ce qui est un petit peu complètement différent. Mmh. Et par ailleurs, alors effectivement, vous dites, aujourd'hui, la loi fait que...
C'est pas tout à fait vrai.
On pousse les gens, parce qu'effectivement, pour avoir une pension à peu près correcte, ça vous pousse jusque-là. Mais là, je pense qu'avec ce système-là qui va décaler... de 2 ans, il y a énormément de gens qui se trouvent ça injuste parce que déjà, ils ont du mal à se voir travailler à 62 ans. Parce que c'est ça la réalité. Pourquoi les gens trouvent ça injuste? Parce qu'aujourd'hui, ils trouvent que bosser déjà à 62 ans, c'est pas possible. Alors 64.
Fabien Villedieu de Sudrail est avec nous. Il est 18h, bientôt 6. On est en direct sur CNews et sur Europe 1 pour évoquer cette grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites. On va rejoindre l'une de nos équipes dans les cortèges, Maureen Vidal, avec Fabrice Elsner. Vous êtes avec Frédéric, un taxi qui lui aussi est venu manifester. C'est bien cela, Maureen?
Et oui, Laurence, c'est ça. Là, je suis actuellement à Nation, à la ligne d'arrivée de la manifestation. Et c'est dans une ambiance plutôt bon enfant, comme vous pouvez voir autour de moi. Il n'y a pas beaucoup de bruit. Les gens sont plutôt calmes. Le trajet de Bastille à Nation s'est passé très calmement avec une foule même plutôt éparse. Les manifestants sont donc satisfaits ici. Ils revendiquent ce pourquoi ils sont venus. Enfin, le projet de loi de réforme des retraites. Nous sommes d'ailleurs, comme vous avez dit, avec Frédéric Taxi Parisien. Alors, Frédéric, bonjour. Alors, dites-nous, êtes-vous satisfait déjà de cette manifestation?
Mais oui, tout à fait. De la République, c'était vraiment très dense, très compact. On était des centaines de milliers et voilà, tout le monde a convergé jusqu'à la Nation. Et vraiment, c'est une réussite sur Paris.
Est-ce que vous pensez que le gouvernement va reculer face à toutes ces manifestations et à ce mouvement?
Oui, ben, de toute façon, il est obligé. Là, vu le nombre de personnes à Paris et en province et d'autres manifestations prévues samedi, vraiment, les gens ont fait le maximum pour se déplacer. Moi, j'ai fait des petits pas pour un grand combat.
Vous serez là, vous, pour les autres manifestations, du coup?
Oui, tout à fait, ouais, samedi aussi, rebelote.
Et que pensez-vous des heurts qui ont eu lieu un petit peu plus tôt, tout à l'heure, un petit peu plus tôt dans le cortège? Il y a eu les Black Blocs contre les forces de l'ordre. Que pensez-vous de ces personnes qui viennent et qui potentiellement peuvent gâcher pour certains manifestants cette manifestation?
Bah oui, effectivement, ça gâche toujours un peu la manifestation, mais ça, c'était à prévoir. Hein. Et ça, c'est au CRS de gérer ça et de les interpeller hein, plus rapidement pour éviter que ça s'aggrave de plus en plus. Parce qu'il y a des gens, des Parisiens qui habitent sur ces axes-là et de voir des voitures brûler, c'est pas chouette.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric. Merci.
Merci beaucoup. Maureen, vous vouliez continuer? Vous aviez un truc à nous dire en plus?
Non, c'était juste pour faire une petite conclusion sur la satisfaction dans l'ensemble ici à Nation des manifestants, du coup.
Merci beaucoup, Maureen Vidal, Fabrice Elsner. On le voit, effectivement, cette mobilisation réussie. Jean-Christophe Couvi, vous êtes policier du syndicat national Unité SGP. Il y a eu 2 moments de tension, très très brefs, 15h45, 16h30, où des Black Blocs ont tenté de semer la zizanie, mais ça a été extrêmement vite circonscrit par vos collègues.
Oui, tout à fait. Bah, on a changé de logiciel, je vous dis, depuis quelques temps. Et effectivement, on est beaucoup plus dynamique sur les petits groupes comme ça qui sont juste là pour en découdre. Dès qu'on peut intervenir, on intervient, on isole, on interpelle. Après, maintenant, à la justice de punir, hein, chacun son job. Mais j'espère qu'un jour, ils seront vraiment sérieusement punis. Et puis, de temps en temps, bah oui, une petite charge républicaine, ça remet aussi les idées en place. Parce que, en fait, souvent, ils comprennent aussi un peu que ça. Voilà, ils veulent de l'affrontement. Et nous, c'est bien, on les interpelle. Et en fait, on est beaucoup plus proactif qu'à une époque où on subissait. Et là, maintenant, on a décidé d'intervenir très rapidement pour éviter justement qu'ils se coagulent, qu'ils deviennent un peu plus compacts. Et forcément, quand on a une force qui est en nombre, elle est beaucoup plus difficile à manœuvrer, en fait. Donc là, en fait, on isole les petits groupes, on les interpelle et on les ramène au poste.
Et vous le disiez, les syndicats étaient en formation très resserrée, donc c'est extrêmement difficile aussi de se mettre dans les interstices. Hein.
Oui, bah, vous voyez, quand on signe une déclaration de manifestation, que tout est carré, qu'on a un service d'ordre vraiment qui est homogène, avec des confédérations qui se parlent, qui laissent très peu justement d'interstices entre les confédérations, mais on voit bien qu'il y a des difficultés à s'immiscer dedans. On voit bien aussi qu'on ne veut pas nous voler ce moment. Voilà, on a aujourd'hui, c'était une manifestation qui était populaire, qui est pacifiste, et on voulait vraiment pas qu'il y ait des débordements, de la violence. Donc du coup, toutes les confédérations ont pris leurs patins et ont musclé un peu le service d'ordre pour que on nous vole pas ce moment historique.
Fabien Villedieu de Sudrail, vous nous aviez dit il y a deux jours, il faut qu'on puisse venir manifester dans le calme, dans la paix, dans la sérénité, avec des poussettes s'il le faut. Ça a été le cas en grande majorité en région. Bon, deux incidents mineurs pour l'instant à Paris. On peut dire que même de ce côté-là, côté sécurité, la journée est réussie.
Oui, par ailleurs, moi j'étais solidaire, on était tout devant. Donc j'ai vu un petit peu ce qui s'est passé. Parce qu'il faut se rendre compte, c'est que 99% des gens du cortège, parce que j'ai remonté, ils se sont même pas rendus compte de ce qui se passait. On leur avait dit effectivement devant. Et voilà, moi je suis pas fan des hold-up. Voilà. Il y a des millions de gens qui se sont déplacés, ou des milliers de gens qui se sont déplacés. Et effectivement, il y a rien de plus agaçant qu'à la fin, alors que t'as même pas vu, parce que 90% des gens n'ont rien vu. C'était la bonne ambiance, ça chantait, ça tapait dans les mains, voilà. Et vous venez, vous regardez la télé, et vous voyez des mecs qui brûlent. Enfin, ça s'appelle un hold-up, voilà. Donc, ras-le-bol des hold-up. Donc, nous, moi, je suis pas fan de ce genre de truc. Les manifs se sont très bien passés. Et ça, c'est super. Il y avait une super ambiance. Moi, j'en reviens. Hein. J'ai une patate. Là, j'ai pas beaucoup de voix parce que j'ai pas arrêté de crier, gueuler, chanter. Voilà. Et ben, ça fait du bien. C'est ça, les manifestations. Les manifestations, c'est ça. Et ça, c'est la force du monde. Et moi, je crois à la force du nombre.
Et peut-être que la détermination des manifestants à ne pas se laisser faire voler ce moment-là. Peut-être que les Black Blocs l'ont ressenti et qu'ils étaient moins présents.
Ils ont vu que la mayonnaise ne prenait pas. Ils ont vu que de toute façon, les manifestants les ignorent complètement parce qu'on n'est pas là pour leur combat à eux. On est là pour notre combat à nous, citoyens, pour nos retraites, pour notre avenir. Et donc, en fait, ils n'avaient même pas le droit on ne va pas leur donner trop d'importance parce qu'il reste toujours une petite minorité. Et effectivement, je suis d'accord, on n'était pas là aujourd'hui que pour se compter. On est là pour gagner, c'est-à-dire qu'on est là vraiment pour infléchir cette réforme des retraites et pour, encore une fois, éveiller un peu les consciences et montrer que c'est pas ce qu'on nous vend qui est toujours la vérité.
Thibault est sur le cortège, Thibault, journaliste à Europe 1. Racontez-nous un tout peu comment s'est passée votre journée de manifestation, Thibault.
Eh bien, Laurence, elle a eu du mal à commencer cette journée de manifestation. D'abord parce que vous le disiez tout à l'heure, effectivement, il y a eu plusieurs débordements juste avant place de la Bastille. Donc ça a bloqué le cortège pendant un moment, pendant plus d'une heure. Il y a eu ces cordons de CRS, de sécurité qui se sont déployés. On a pu assister à plusieurs charges assez violentes, des jets de projectiles contre la police, contre certaines vitrines. Donc plusieurs reprises du gaz lacrymogène a été utilisé, mais aussi des grenades de dispersion. Donc parmi les manifestants, il y avait bien sûr beaucoup de ferveur, mais aussi beaucoup d'impatience, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour la plupart, mais ils sont nombreux à venir dans la première fois, ne pas avoir l'habitude de ces moments de manifestation. Donc il y a eu beaucoup d'impatience d'abord quand le cortège a été bloqué, et puis ensuite, les tensions se sont apaisées à la demande des syndicale, un itinéraire bis a été mis en place.
On a un tout petit problème avec la liaison de Thibault. On va essayer de le retrouver dans un instant avec une liaison un tout petit peu plus stable. Éric Revel, vous êtes avec nous, journaliste. Test match réussi, on le disait avec M. Couvi et M. Villedieu. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Réunion des syndicats dans la soirée.
Bien sûr.
Et ils vont peser de, voilà, de,
alors,
de,
au-delà
de cette
soirée
journée
électorale
réussie.
Qui voit les syndicats majoritairement élus ce soir, à une grande majorité, parce qu'on peut partager.
Vous sentez ironie dans votre
oui,
voix.
Oui, un petit peu. Il faut dire deux choses, à mon avis. La première, c'est que c'est une mobilisation très réussie, il n'y a pas de doute. Et la deuxième chose, moi je tiens à le souligner, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une manifestation de cette ampleur, mais de cette ampleur sans incident majeur. Et ça, il faut. Alors, il faut saluer sans doute les services d'ordre des syndicats, des confédérations. Il faut aussi peut-être s'interroger, M. Couvi, parce que ça m'a toujours frappé quand le mouvement des Gilets jaunes s'est déployé. Vous aviez plus de mal à canaliser les Black Blocs que vous en avez eu visiblement aujourd'hui, ou alors ils étaient moins nombreux. Je ne sais pas. Ou alors vous avez changé de doctrine, mais.
Les ordres donnés n'étaient pas les
mêmes. Mais c'était alors, peut-être pas la même chose. C'est, ça tient peut-être au fait que le ministre de l'Intérieur est en Espagne aussi et qu'il s'est préoccupé. Non, là, je rigole un peu. Je vais vous laisser répondre. Alors, maintenant, ce qu'on attend de la réunion des syndicats.
Passer, voilà.
Alors, moi, à mon avis, c'est pas cette manifestation, même si elle est massive, qui va faire plier le gouvernement et le président de la République. On la savait massive, c'est confirmé. Au-delà de massive, bon, très bien. Maintenant, c'est la durée et quels vont être les mots d'ordre des syndicats. Alors, j'entends M. Villedieu qui dit, ben non, il faut retirer toute la réforme. J'ai commencé par parler de soirée électorale parce que, en réalité, on a l'impression, si vous voulez, que les syndicats sont très contents, en fait, de ce qui s'est passé pour une raison très simple. C'est que les syndicats jouaient gros aussi sur cette manifestation. Parce qu'il fallait qu'ils montrent qu'ils étaient crédibles à mobiliser des gens qui ne sont pas anti-système syndical, qui ne se mobilisent pas en dehors des syndicats, comme on a vu tous ces mouvements, depuis le mouvement des Gilets jaunes, envahir le contexte social dans ce pays. Donc, je comprends que la soirée électorale est réussie pour les syndicats parce que de ce point de vue-là, c'est aussi un triomphe pour eux. Maintenant, moi, ce qui me chagrine un peu,
et après, on donne la parole à M. Villedieu.
C'est que derrière, une fois passée l'euphorie, il va falloir quand même que les syndicats nous disent s'ils veulent, enfin, au gouvernement, s'ils ne veulent rien de cette réforme, s'ils négocient ou pas, si la grève, si les mouvements sociaux vont durer ou pas, si le pays va être paralysé ou pas.
Alors, on va lui poser, voilà. On va le laisser répondre,
et ça, et ça, si vous voulez, c'est, voilà, ça, là, c'est une fois que l'euphorie est passée, qu'on a bien chanté dans la manifestation. Voilà, maintenant.
Fabien Villedieu,
soyons
qu'est-ce
sérieux.
Que vous allez demander désormais? Alors, retrait total de la réforme, ok, le gouvernement va dire non, qu'est-ce qui va se passer?
Bah déjà qu'on passe pas trop vite sur le succès de cette manif.
Ouais, non,
je trouve que bon bah ok, c'est next quoi. C'est un succès les next, on n'en parle pas trop.
Non, c'est un gros
succès.
Une heure qu'on en parle.
Et je suis particulièrement heureux. Et je peux vous dire que tous les gens qui sont venus et c'était galère de venir dans les manifestations, ils sont content, voilà. Donc moi, je profite de ce moment le plus long possible.
En matière de dialogue social, qu'est-ce que vous faites
pour les suites?
Parce
que vous avez raison, va falloir parler des suites. Moi, je ne sais strictement rien de ce qui va se passer demain. Voilà, ça, si je le savais, je ne serais pas là, quoi. Je serais Madame Soleil. Voilà, ce que je sais, par contre, c'est pour que les suites marchent, il faut un certain nombre d'ingrédients. D'abord, il faut l'unité syndicale. Je pense qu'une des raisons du succès de la journée d'aujourd'hui, c'est qu'il y a toutes les organisations syndicales. Ça, c'est indispensable. Ouais. Il faut que cette unité-là qui a marché, elle continue demain. Je ne sais pas si ça a l'air plutôt bien parti.
Ils se réunissent ce soir.
Et deux, je pense aussi qu'il va falloir cranter en termes de mobilisation.
Voilà. Faire plus.
On parle peut-être de 2 jours, peut-être de 3 jours. Je ne sais pas quelle forme ça prendra, mais il va falloir cranter pour montrer, premier avertissement, bon, le deuxième un petit peu plus important. Moi, je trouve cette idée-là assez juste. Vous imaginez bien que ce n'est pas moi qui vais décider.
Voilà, c'est l'intersyndicale qui va se réunir dans la soirée.
Voilà.
On va rejoindre Augustin Donadieu, un de nos envoyés spéciaux avec Jules Bedos, qui est avec une dame qui est administrée dans l'administration publique. Elle s'appelle Sylvie. Augustin, expliquez-nous ses revendications.
Effectivement, Sylvie qui a 42 ans, qui travaille dans l'administration publique et elle vient d'arriver avec la queue du cortège ici à la place de la Bastille. Sylvie, pourquoi vous êtes là aujourd'hui?
Parce qu'on ne veut pas travailler plus longtemps. On voit bien qu'on a de plus en plus de collègues autour de nous qui n'arrivent pas en bonne santé à l'âge où ils devraient prendre leur retraite. Les carrières sont incomplètes, donc on ne peut pas travailler plus longtemps. Et on a vraiment besoin de trouver autre chose comme piste de réforme. Alors nous, on a plein de propositions à la CGT, notamment de payer les femmes autant que les hommes, par exemple. Ça permettrait d'augmenter les financements. Une toute petite partie du salaire de M. Bolloré permettrait de couvrir les retraites, le déficit. On a plein de pistes et il n'y a aucune raison de nous faire travailler plus longtemps. Nous, on veut prendre nos retraites à 60 ans avec 37,5 annuités.
Cette mobilisation aujourd'hui conséquente partout en France, particulièrement à Paris, est-ce qu'elle vous encourage à continuer le combat ?
Évidemment, et on lâchera rien. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment l'abandon de la réforme, et on veut même aller au-delà. Parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, pour prendre sa retraite, comme nous le propose Macron, à 64 ans avec 43 années de cotisation, ça veut dire avoir commencé à cotiser à 21 ans. Le premier emploi stable pour un jeune aujourd'hui, c'est 27 ans. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on partira à la retraite beaucoup, beaucoup plus tard. 67, 70 ans. Dans la fonction publique, on nous propose de prendre nos retraites avec des prolongations d'activité, avec la réforme à 70 ans. Vous nous imaginez dans les bureaux à 70 ans ? C'est impossible.
Merci beaucoup Sylvie. Un mot sur les tensions qu'il y a eu tout à l'heure avec les forces de l'ordre. Est-ce qu'elles entachent un petit peu cette mobilisation ?
Alors, nous, très sincèrement, on ne les a pas vues. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on a à chaque fois des dispositifs policiers qui sont complètement inadaptés aux manifestations. Et que c'est aussi...
Tout est rentré dans l'ordre, en tout cas.
Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Voilà.
Merci beaucoup, Sylvie. En tout cas, on vous donne la parole. On continue de vous donner la parole sur CNews. Et on va continuer de progresser ici, avec la queue de ce cortège de la place de la Bastille jusqu'à la place de la Nation.
Merci, Augustin Donadieu et Jules Bedos, avec d'autres témoignages à venir. Florian Tardif, du service politique de CNews. Un petit mot d'Emmanuel Macron, qui est actuellement en Espagne, en déplacement, avec une grande partie de ses ministres, d'ailleurs. Et qui a dit que cette réforme avait été démocratiquement adoptée, en fait, légitimée, validée, voilà, parce qu'il a été élu sur ce programme-là. Est-ce que l'argument est valide à la lumière de ce qui s'est passé aujourd'hui ?
Oui, c'est l'argument qui est utilisé maintenant depuis plusieurs jours par l'exécutif, dire que les Français ont choisi cette réforme, puisque le président de la République, il est vrai, a abordé ce point durant sa campagne de 2022 pour être élu à la tête du pays. Et d'ailleurs, il a pu constater que c'était un point qui pouvait crisper une partie de la population. C'est d'ailleurs pour cela que l'exécutif a reculé. On ne parle plus de reculer l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans, mais à 64 ans. Après, lorsque l'on compare les propos tenus tout à l'heure à Barcelone du chef de l'État par rapport à ceux qu'il a tenus le soir de sa réélection... Ils sont contradictoires puisqu'il dit que cette réforme a été validée, choisie démocratiquement par le peuple français. Or, le soir de sa réélection, il expliquait qu'il était conscient qu'une partie du pays avait voté non pas pour lui, mais contre Marine Le Pen, son opposante au second tour de l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, cela s'est confirmé un mois et demi plus tard, lors des élections législatives, lorsque les Français ont décidé de ne pas voter massivement pour le camp présidentiel et que, in fine, il s'est retrouvé sans majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs pour cela qu'en ce moment, il est en train de négocier avec le parti Les Républicains pour tenter d'avoir une majorité absolue pour faire passer ce texte. Donc, il tient des propos contradictoires sur cette réforme des retraites.
Fabien Villedieu, Sudrail, Emmanuel Macron défend une réforme des retraites démocratiquement validée.
Moi, je suis d'accord avec vous. Hein. C'est vrai qu'au second tour, on nous a expliqué qu'il fallait faire barrage Marine Le Pen. Hein. Voilà. Ce que d'ailleurs, personnellement, je n'ai même pas fait.
Ça veut dire personne n'y a été forcé non plus.
Oui, mais quand même. Il y a, et du coup, d'un seul coup, on nous dit c'est tout mon programme, quoi. Voilà. Alors, c'est notamment, je l'avais pas fait au second tour parce que je savais que justement, on allait se taper. J'avais bien lu son programme et j'avais vraiment pas envie de me taper la retraite. Alors, à l'époque, je crois que c'était 65 ans, ce qu'il y avait dans son programme, mais toutes les joyeusetés qu'il y avait à l'intérieur. Mais voilà, il y a un truc qui va pas quand même, quoi. C'est qu'il y a un second tour, on dit bon, quasiment on cache le programme en disant faut faire barrage à l'extrême droite. Et je comprends les arguments. Moi, j'ai plein de collègues, on s'est engueulé, enfin tout le monde s'est engueulé dans la famille, voilà. Je pense que ça arrivait un peu partout. Oui, mais faire barrage, mais je suis pas d'accord avec son programme et tout, voilà, les discussions de dingue. Voilà, et puis du coup, il y a beaucoup de gens quand même qui ont voté pour lui, pour faire barrage, et puis mais pas du tout pour son programme. C'est ça le décalage qu'il y a. Ouais. Et hop, on nous remet son programme devant. C'est pour ça qu'il y a du monde dans la rue.
Aujourd'hui. Il est 18h22, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. On a retrouvé Thibaut Hue, reporter d'Europe 1. Thibaut, vous êtes place de la Nation où la manifestation se termine dans la joie et la bonne humeur.
Oui, tout à fait. Hein. Ça se termine dans le calme. Donc les manifestants sont tous sourires, même s'il y a eu cette crainte tout à l'heure de ne pas pouvoir finir cette manifestation, qu'elle ne puisse pas aller à son terme avec ces violences qui se sont déroulées place de la Bastille. Les CRS ont intervenu. Un cordon de sécurité s'est placé au milieu de la foule. Elle a été bloquée pendant presque une heure. Mais voilà, finalement, à la demande des organisations syndicales, un itinéraire bis a été mis en place pour que la foule puisse continuer à avancer. Donc tout le monde a pu arriver, place de la Nation, 30 personnes ont été interpellées, mais voilà, le cortège continue sa route dans le calme, une véritable marée humaine, une marée de pancartes, de banderoles 400 000 personnes selon la CGT. C'est presque deux fois plus qu'en 2019. Hein, rappelez-vous, lors de la première mobilisation syndicale contre la précédente réforme des retraites. Donc voilà, malgré les quelques tensions, c'est surtout la ferveur que l'on sent ici, place de la Nation, et l'envie de revenir dans la rue autant de fois qu'il le faudra.
Merci beaucoup Thibaut U d'Europe 1, Jean-Sébastien Ferjou du site Atlantico. Premier test réussi. Maintenant, il va falloir mobiliser sur la durée, visiblement, hein, si c'est ce que décide l'intersyndicale ce soir, avec une première journée la semaine prochaine, peut-être deux, peut-être trois.
Bien sûr, il va falloir mobiliser sur la durée et peut-être plus subtilement avoir une proposition alternative, parce que je ne crois pas, on peut discuter à l'infini de savoir les motivations des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron au deuxième tour. Mais pris dans l'autre sens, ils n'ont pas voté pour la France Insoumise, ils n'ont pas voté pour les autres programmes non plus. Et donc cette question-là, elle est sur la table, parce que quand vous regardez les enquêtes d'opinion, les Français ne sont pas en faveur de cette réforme, mais ils pensent qu'il faut une réforme. Donc la question de dire simplement retirons cette réforme, je ne crois pas qu'elle suffira à construire quoi que ce soit, parce que l'unité syndicale, on verra bien, alors probablement que le succès aidera à la maintenir un peu plus longtemps, mais on a quand même perçu des divergences de vues entre la CGT et la CFDT. La CFDT a l'air beaucoup moins prête à un blocage dur du pays que ce que la CGT en affiche. Et donc, ça n'est pas parce que c'est un succès incontestable aujourd'hui et que le gouvernement ferait bien de l'entendre et de s'en préoccuper que pour autant, c'est une partie absolument gagnée pour les syndicats, parce que la réalité, c'est que les Français se sentent très largement orphelins de représentation. Ils se sentent orphelins de représentation politique, comme ils se sentent, quand on regarde le taux de syndicalisation dans le pays, orphelins de représentation dans le champ de la démocratie sociale. Cette question-là, elle est entière, elle est absolument entière à l'heure actuelle, et malheureusement, mais personne n'y répond véritablement.
Allez-y, Fabien Villedieu, vous voulez réagir ?
Par exemple, une des contradictions françaises, hein, la France a beaucoup de contradictions, c'est que vous avez raison, il y a peu de syndiqués en France, mais par contre, les syndicats, enfin, il y a quasiment aucun syndicat d'Europe qui est capable de mettre autant de personnes dans la rue. Aucun. Donc il y a cette contradiction où à la fois peu de syndiqués d'un côté, mais aussi...
En Allemagne, les syndicats respectent un consensus une fois qu'ils ont signé un accord, donc ils n'ont pas besoin d'être dans la rue, si vous voulez.
Et il y a des acquis sociaux.
Oui, mais ils signent un accord.
Contents. Moi, j'ai vu une émission là hier et il y avait un journaliste. Alors, c'était pas allemand, il était danois. Et puis, parce que j'ai appris qu'en Danemark, c'est 70 ans la retraite. Et le mec, il me disait en disant, mais heureusement que je suis en France parce que moi, du coup, je vais pouvoir bénéficier de la retraite à 62 ans. En fait, quand vous demandez les Allemands. Ils seront tous contents s'ils pouvaient avoir une retraite à 62 ans au lieu de 66.
Je vais demander à un Suisse
Français qui sont pleins de contradictions. Je vais vous poser une question.
Éric Revel.
Vous n'êtes pas pour une remise en cause du système par répartition, par définition, même avec une dose de capitalisation. Pas ma question, j'ose même pas vous la poser. Bon.
Bah, si, alors, il va répondre. Vous ne perdez pas de temps. On écoute.
Non, je ne suis pas pour une retraite par capitalisation.
Très bien. Alors, donc, vous êtes pour une retraite avec des paramètres sur lesquels on touche. Bon, alors j'ai compris que l'accroissement de l'âge de départ en retraite, c'était pas bon. Le succès de la mobilisation, le nombre d'annuités, même si c'est une réforme d'une ministre socialiste, c'est pas bon non plus. Donc il reste deux autres paramètres sur lesquels on pourrait jouer, puisque les Français, comme le rappelait Jean-Sébastien, sont pour une réforme, mais pas pour celle-là. Alors il reste, à mon avis, deux paramètres. L'augmentation des cotisations sur les bulletins de salaire, sur les feuilles de paye. Et puis la diminution des pensions de nos aînés. Alors, vous êtes pour gréver le pouvoir d'achat des Français en augmentant les cotisations sur leur bulletin de salaire et pour diminuer les pensions de nos aînés ? Il ne reste que deux critères. Hein.
Dans les cotisations, il y a la partie employeur et la partie salarié.
60%, c'est la partie employeur, d'ailleurs.
Laissez-leur augmenter, s'il vous plaît.
Moi, je suis pour augmenter les cotisations de la partie employeur, évidemment.
D'accord. Si on a un coût du travail en France qui est déjà excessif par rapport à d'autres...
Parce que le problème, c'est que toute la politique, y compris sur la question du pouvoir d'achat d'Emmanuel Macron, a été basée sur quoi ? Sur le fait d'enlever des cotisations sociales. Et on peut pas. Et finalement, il y a une certaine logique, vu qu'il développe cette politique qui consiste la prime Macron, il y a pas de cotisation sociale dessus. Okay. Les heures supplémentaires, il y a pas de cotisation sociale. Donc, il y a une forme de logique. Donc tout ça, finalement, assèche les caisses de la sécurité sociale. Et ben, faudrait peut-être faire l'inverse.
Très honnêtement,
si vous demandez aux Français et aux salariés de cotiser,
n'assèche pas les caisses
ça ne les remplit pas, ça permet
de réduire le nombre de chômeurs et également dans le pays,
et ça permet aussi de remplir la prime Macron, c'est sûr.
Terminé, Monsieur Villedieu.
Mais et très honnêtement, si vous demandez aux salariés, parce que l'avantage des cotisations sociales, c'est que tout le monde les paye. Donc, quelquefois, en l'exaugmentant un petit peu de 10 euros ou 20 euros, ça peut permettre, si tu perds 20 euros par mois, mais tu ne travailles pas à 64 ans, ou si tu perds 20 euros et tu travailles à 62 ans, je pense que la très grande majorité des Français préféraient peut-être perdre 20 euros par mois, mais en tout cas, ne pas décaler l'âge d'ouverture des droits à 64 ans.
Je ne suis pas persuadé. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui leur explique comment on va vivre dans le monde dans lequel on vit. On n'est plus dans le monde des années 80 ou je ne sais pas, ou dans le monde qu'imaginait Karl Marx. On est dans un autre monde. On est dans un monde où effectivement c'est une économie de la connaissance, il y a des enjeux parce que tout le monde n'est pas égal face à une économie de la connaissance, c'est plus de tertiaire, les diplômés peuvent être favorisés, il y a des enjeux qui sont liés à la robotisation, à l'automatisation. Moi je veux bien que vous me disiez que vous voulez augmenter les cotisations autant que vous voulez, on l'a vu avec le Covid, il y a un moment il y a des gens qui se sont rendus compte que c'était plus facile de mettre des robots, ils font pas la grève. Donc je vous dis pas que c'est ce qu'il faut faire, je vous dis juste que ces arbitrages là ils existent parce que la France n'est pas une île, nous vivons au milieu du reste du monde, nous avons des frontières et nous avons des échanges aussi avec les autres pays. Donc on ne peut pas faire abstraction de l'ensemble de ces contraintes-là. Le problème, justement, c'est que personne n'a été capable de formuler une nouvelle proposition. On voit bien qu'il y a eu un capitalisme financiarisé et mondialisé qui a produit des effets catastrophiques pour partie. Mais pas que. À côté de ça, il y a eu des tas. Vous savez, c'est comme le sport. Le sport, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la balance, mais c'est aussi très mauvais pour les articulations. Et à un moment, vous devez justement essayer de gérer les contradictions. Et personne n'a pensé ça. On n'a pas eu de campagne présidentielle. Mais encore une fois, on peut mettre en cause M. Macron, qui par ailleurs n'a rien fait pour construire une majorité sociologique, pour convaincre des gens. Là, on en est juste à 10 mois combien tu gagnes et quel est ton diplôme, et je te dirai pour qui tu votes. Ouais. Mais c'est tout ça que nous payons aujourd'hui. Et encore une fois, c'est pas juste mettre les gens dans la rue, parce que mettre les gens dans la rue, ça définira pas plus un modèle pour qu'on soit prospère dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40.
Il est 18h30, on est en direct sur CNews et sur Europe 1 pour cette édition spéciale de Punchline destinée et consacrée à la réforme et à la lutte contre cette réforme des retraites. On rejoint Augustin Donadieu, l'un de nos envoyés spéciaux, qui se trouve avec Jules Bedos auprès d'une manifestante ou d'un manifestant. Expliquez-nous, Augustin.
Oui, on est avec Johanny. Johanny, il a 40 ans, il travaille dans le commerce alimentaire. Il manifeste, il est décidé à ce que le gouvernement retire sa réforme. Bonjour Johanny. Qu'est-ce que concrètement cette réforme va changer pour vous ?
On va travailler plus longtemps. Enfin, en tout cas, cette réforme ne va pas passer parce qu'on va lui faire barrage. Parce que, voilà, en plus de... Moi, je travaille dans le commerce. Travailler dans le commerce alimentaire... plus longtemps, c'est non négociable. Donc la retraite, c'est à 60 ans, un point, c'est tout.
Vous êtes prêt à aller jusqu'où pour que le gouvernement retire cette réforme ?
Jusque là où il faudra aller, jusqu'au bout. On est déterminé, on est majoritaire. C'est le gouvernement qui est minoritaire. Donc en démocratie, quand on est minoritaire, on fait pas ce que... On respecte la majorité et donc on retire son projet.
D'autres manifestations, d'autres mobilisations sont prévues ?
Ils vont annoncer ce soir parce que les syndicats, les dirigeants des centrales syndicales se réunissent ce soir. Ils sont normalement en train de se réunir. Mais bon, je pense qu'on entend jeudi prochain. En tout cas, toutes les mobilisations, on les fera jusqu'au retrait de la réforme.
Est-ce que pour sauver le système des retraites, vous ne seriez pas capable de travailler quelques années en plus ?
Non, pas du tout.
Pourquoi ?
Le système, il est complètement viable sans qu'on le réforme, en tout cas comme ça. Il y a plein de solutions, mais le gouvernement ne nous entend pas. Mais pas de report de l'âge de départ et des pensions qui nous permettent de vivre.
Un mot sur la mobilisation partout en France et particulièrement ici à Paris, une mobilisation importante. La tête de cortège est déjà arrivée place de la Nation. La queue de cortège, elle, a attendu 4 heures place de la République. Ça fait chaud au cœur, ça motive ?
Ah oui, complètement, oui, bien sûr. Bien sûr.
Vous attendiez à cela ?
Oui, on s'attendait à une très forte mobilisation parce que on sait bien que cette réforme, elle n'est pas acceptée par la majorité des travailleuses et des travailleurs en France. Et bien sûr, on espère être plus nombreux à la prochaine manifestation. Et la France entière dit non à cette réforme. Il faut que cette réforme soit retirée.
Merci beaucoup, Johanny. Merci beaucoup.
Et merci à vous, Augustin Donadieu et Jules Bedos. Ça parle clair, ça parle net, ça parle fort. Fabien Villedieu, on sent que les manifestants sont prêts à remettre le couvert la semaine prochaine s'il le faut.
majorité des manifestants sont portés par le poids de la manifestation. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une manifestation, mais voilà. Surtout la manifestation qu'on a eue là, où c'est ce que disait d'ailleurs, je n'ai pas eu le temps de réagir, mais l'autre personne qui intervenait, lorsqu'on lui a parlé des casseurs, elle dit bah, « ouais, je ne suis pas au courant ». En fait, les gens ne se sont pas rendus compte de tout ça. 90% ne s'en ont pas rendu compte parce que c'est une bonne ambiance, parce que... Et du coup, tout ça alimente une détermination.
Et parce que les policiers ont bien travaillé aussi.
Oui, oui, mais moi, j'ai pas de problème avec la police. Hein,
on le dit en passant, quoi, voilà.
Voilà, surtout lorsqu'elle est républicaine, j'ai aucun problème avec la police. Mais très honnêtement, là, ce qui va se passer, c'est que du coup, bah, ça, les manifestations, ça booste les manifestants. Et là, il va avoir une volonté d'aller encore plus loin. Voilà. Et je pense que les organisations syndicales, enfin, la première qui fait un pas de côté en disant « moi, je vais essayer de négocier » ou « je ne sais qui, je ne sais quoi », je lui souhaite bien du courage. Là, elle va être tenue par ça. Parce que quand vous avez fait une démonstration de force, comme aujourd'hui, c'est une démonstration de force. C'est une démonstration de force. Et je pense que le gouvernement l'a compris. Et que vous l'avez porté grâce à cette unité syndicale. Eh ben, vous êtes pris aussi par cette unité syndicale.
Jean-Sébastien Ferjou.
Je suis absolument d'accord avec vous. C'est une démonstration de force. C'est un succès incontestable. Enfin, en tirer la conclusion qu'il y aurait une majorité de Français qui sont pour la retraite à 60 ans, c'est aussi absurde qu'Emmanuel Macron expliquant qu'il est le seul à avoir le sens de la raison et de la responsabilité. Enfin, pardon, mais non, ça ne dit rien sur ce que souhaitent véritablement les Français. Ça dit quelque chose sur ce qu'ils ne souhaitent pas. Mais derrière, il faut bien qu'il se passe quelque chose, puisque quoi qu'il en soit, les déficits budgétaires, ils sont là. Et ils ne sont pas là uniquement sur la question des retraites. Pourquoi on est contraint de faire cette réforme des retraites ? Parce que le reste du modèle social français est en train de s'effondrer. Enfin, vous le voyez bien, les hôpitaux, les écoles, la police, les transports publics. Donc, tout le monde est conscient qu'il faut changer des choses. Le sujet, c'est quoi ? Alors, on n'a pas eu de campagne présidentielle digne de ce nom, donc personne n'a véritablement porté de projet là-dessus. Enfin, bon courage pour reprendre votre expression, pour considérer que ce monsieur-là, il correspond à l'idée que se font une majorité de Français de ce qu'ils veulent que la France soit dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans.
Non mais moi je suis d'accord, le modèle social est en train de s'effondrer, c'est vrai, dans les hôpitaux, dans les écoles, dans le ferroviaire, dans l'énergie, mais qui est aux manettes du pouvoir depuis un certain nombre d'années ? Enfin, il y a quand même une petite part de responsabilité. On a vendu la soupe aux gens,
sur les solutions.
On a vendu la soupe aux gens comme quoi c'était super la concurrence. Voilà, on a fait de la concurrence dans l'énergie. Ah bah super, la concurrence dans l'énergie. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, 95% de l'énergie est produite par ex-EDF-GDF. C'est-à-dire que tous les autres concurrents, ils font quoi ? Ils produisent pas d'énergie, ils rachètent à bas coût l'énergie faite par EDF pour le revendre. Enfin, moi j'appelle ça, ça s'appelle des parasites. Des parasites. Et aujourd'hui, on se rend compte, dans le ferroviaire, sauf qu'on l'a affaibli. On l'a affaibli. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'école privée aussi. On a affaibli l'école publique. Et ce qui fait
qu'aujourd'hui... Parce que oui, l'école publique
aussi.
Est affaiblie que l'école
on l'a
privée.
Affaibli. Et on a fait la même chose aujourd'hui dans les hôpitaux. Donc, à un moment donné, eh ben, quand une politique ne marche pas, peut-être qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se dire eh ben, on va faire un petit peu différemment.
D'accord. Mais on se rappelle bien qu'il y a 6 mois, le président Macron était réélu.
Oui.
Voilà.
Pour les raisons dont on a évoqué tout à l'heure.
C'est une majorité relative au Parlement.
Et qu'il y a une majorité relative.
Mais il n'y a pas un blanc-seing.
Lui, il dit, vous savez, voilà, que la réforme a été démocratiquement validée. C'est l'argument. Il a été réélu là-dessus.
Qu'il y a eu des négociations pendant plusieurs mois. Il y a même eu des négociations durant le premier quinquennat, puisque cette réforme est aussi le résultat des négociations qui se sont déroulées en 2019-2020 pour aboutir à cette réforme qui n'a finalement jamais eu lieu due à la crise sanitaire, qui était la réforme portée par Jean-Paul Delevoye.
Dû à l'entêtement d'Edouard Philippe, qui avait introduire du paramétrique dans une réforme
Philippe,
systémique.
Mais nous aurions dû très certainement procéder aussi à cette réforme paramétrique. Mais effectivement, à la base, Emmanuel Macron voulait uniquement changer le système et ne pas forcément reculer l'âge de départ à la retraite, comme le proposait
Christophe
à l'époque Edouard Philippe.
Bah écoutez, effectivement, la réforme de Delevoye, portée par Monsieur Delevoye, qui était systémique, hein, là c'est paramétrique, c'est pas pareil, personne ne la comprenait. Je vous le dis clairement, non, parce que même les ministres, quand on parlait en aparté, certains nous faisaient des petites confidences en disant que de toute façon c'était invendable parce que c'était tellement compliqué, que c'était une usine à gaz et que personne ne la comprenait. Alors peut-être que sur le papier c'était facile, sauf que dans les faits, pour la transformer, c'était impossible. Donc du coup on est revenu sur du paramétrique. Après, encore une fois, on est sur des postures. Voilà, on a décidé qu'il fallait aller à 64 ans parce que autour de nous, tous les pays européens ont remonté effectivement les dates de départ à la retraite. Encore une fois, il y a la date légale et la date réelle. La date légale, effectivement, est toujours inférieure à la date réelle de départ en retraite. Donc ça veut dire qu'on travaille toujours plus que la date de départ qui est annoncée. Et surtout, ce qui aujourd'hui, ce que je vois moi effectivement, c'est que on a une vraie union de différents syndicats qui portent des valeurs différentes. Enfin, on a tous une vision différente des choses, mais là, on a trouvé un point commun. Effectivement, c'est ce combat pour l'avenir. Alors après, il faut penser aussi à l'avenir des retraites. C'est-à-dire que quand on veut penser à une autre génération, c'est-à-dire dans 20 ans, c'est aussi une politique de natalité qu'il va falloir peut-être aussi développer, parce que c'est bien beau de dire, ouais, alors en fait, on a juste à ponctionner un peu plus les Français, ou alors elle est payée moins à la retraite, donc il va falloir déjà aussi un petit peu anticiper. Et tout à l'heure, j'ai écouté une dame qui parlait aussi du travail pour les femmes. En fait, les Japonais, là, je lisais, les Japonais se sont intéressés à ça. Mmh. Il y a un delta entre les hommes et les femmes de 300 euros par mois. Et en fait, ils disaient que justement, si on mettait le même émolument, c'est-à-dire la même paye des femmes et des hommes, ça faisait plus 15% de PIB. D'accord. C'est tout bête, mais c'est comme ça. Donc il y a des politiques.
On est dans la même situation qu'au Japon, où les femmes travaillent infiniment moins qu'en France.
Mais oui, mais c'est parce qu'en fait, en France, effectivement, les carrières, elles sont coupées. Et donc, c'est très compliqué.
Il y a des sujets de carrière hachée.
Et donc, il faut penser aussi à ça. Il y a des charges
familiales qui sont assumées par les femmes, mais sur la différence salariale, quand on regarde véritablement, elle est relativement réduite une fois que vous avez enlevé justement un certain nombre de choses qui relèvent de choix personnels sur le travail partiel.
Oui, mais en fait, ça, c'était qu'une petite partie.
Ce sont aussi des illusions comptables, après, parce qu'au bout du bout, la réalité, c'est qu'il y a 68 millions de Français et que c'est la somme de tous ces comportements-là qu'il faut faire. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il y a des solutions qui rapportent 200 millions et puis il y a des solutions qui se comptent en milliards et que le sujet, c'est de trouver ça. Mais autre chose, juste parce que, encore une fois, on peut faire des manifestations jusqu'à ce que épuisement des baskets s'en suivent, mais il faudra quand même trouver des solutions. Sur le sujet des régimes spéciaux.
Okay, et après on repart sur terrain,
juste sur le sujet des régimes spéciaux. Pour le coup, il y a une majorité de Français qui disent qu'ils sont en faveur de la suppression des régimes spéciaux. Qu'est-ce qu'ils ont à dire, les syndicats, là-dessus? Parce que là, maintenant, ils pensent que, je vous dis, c'est absurde. Ouais. Emmanuel Macron, le monopole de la raison, les autres, ils ont le monopole de la rue. Mais non, la réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça et on ne s'en sortira pas dans la rue. Forcément, dans une démocratie représentative, ça doit passer par des corps intermédiaires.
Je vous passe la parole, mais d'abord, on repart sur le terrain. Régine Delfour et Sacha Robin sont avec une aide médicale. On a tous les corps professionnels qui sont représentés ce soir. On vous écoute, Régine.
Oui, bonsoir Laurence, nous sommes avec Rachid qui est aide médicale psychologique dans un hôpital des Yvelines. Rachid, pour quelles raisons cette réforme jusqu'à l'âge de 64 ans n'est pas possible, un âge de retraite à 64 ans dans votre métier ?
On voit bien qu'aujourd'hui les gens sont fatigués quand ils arrivent à 62 ans, avec le manque d'effectifs, avec du matériel défaillant. On voit l'état des hôpitaux actuellement. Donc imaginez lorsqu'on aura 64 ans, voire plus, comment s'occuper des personnes déficientes psychologiquement, avec des poids morts quand on travaille en EHPAD, les porter, sachant qu'il y a du matériel qui est HS 6 mois de l'année. Donc aujourd'hui ça va parce que j'ai la santé, mais lorsque j'aurai 64 ans, dans quel état je serai pour m'occuper de ces personnes qui auront quasiment le même âge que moi, quasiment quoi. Donc il est impossible pour moi à 64 ans de pouvoir exercer ce métier-là. Et si vous regardez bien, aujourd'hui, les urgences ou autres services milieu hospitalier sont dans une pénurie de soignants, dans une pénurie de matériel. Dans 10 ans plus tard, qu'est-ce qu'on va devenir ? Qu'est-ce qu'on va devenir ?
Oui, parce que vous avez 46 ans, en fait, il y aura encore 18 ans pour vous à travailler dans ces conditions-là. Vous me disiez que vous aviez parfois c'est de la pénibilité du travail. Vous ne vous voyez pas 18 ans encore à faire ce métier ?
Dans ces conditions-là, et vu qu'on va dans le sens inverse, qu'on supprime des postes, combien de postes on va supprimer lorsque moi je vais arriver à 64 ans? Combien de matériel va être HS quand moi je vais arriver à 64 ans? Et on s'occupe d'anciens, on s'occupe de personnes humaines, on s'occupe pas d'usines de yaourt en fait. Et c'est extrêmement difficile psychologiquement et physiquement. Psychologiquement, voyez-vous, quand on travaille aux urgences et qu'on n'est pas capable d'amener un bidet à une personne âgée ou d'apporter un plateau repas parce qu'il manque du personnel, qu'est-ce que l'hôpital public va donner dans 18 ans ou dans 14 ans ?
Merci beaucoup, Rachid. Donc, beaucoup de personnes ici à la Nation, Place de la Nation, où la fin de la manifestation est en train de se faire. La dispersion est prévue à 19h.
Merci beaucoup, Régine Delfour et Sacha Robin, pour tous ces témoignages. 2 millions de manifestants en France, c'est ce qu'annonce Philippe Martinez de la CGT. 2 millions. On attend les chiffres de la préfecture de police, enfin les chiffres nationaux, mais c'est vrai qu'on peut évidemment parler d'ores et déjà d'un grand succès populaire pour cette manifestation, Fabien Villedieu de Sudrail.
Oui, c'est un grand succès populaire, c'est une belle dynamique, c'est une belle victoire. Mais je voulais quand même revenir sur l'histoire des régimes spéciaux quand même. Oui. D'abord parce que j'en fais partie, je suis cheminot.
Vous êtes cheminot, c'est ça.
Je vais vous faire un petit scoop. Les régimes spéciaux n'ont jamais été faits pour des raisons de pénibilité. Les gens me disent que ce n'est pas plus pénible des cheminots que de bosser dans un bus au Havre. Mmh. Bah, c'est vrai, mais ce n'est pas plus pénible. Mais ce n'était pas pour ça qu'il y avait un régime spécial. Le régime spécial, d'ailleurs, et je vous fais un deuxième scoop, ce n'est pas les syndicats qui l'ont obtenu, c'est les patrons du ferroviaire qui l'ont mis en place. Mais pourquoi les patrons, à l'époque, ils l'ont mis en place? Ils l'ont mis en place pour deux raisons. Un, pour attirer, pour des raisons d'attractivité, et deux, pour des raisons de fidélisation. Donc, une fois que vous avez viré les régimes spéciaux, vous êtes bien marié, ça y est, on leur a enlevé ce régime spécial, et bien, les mêmes problèmes qu'ils avaient à l'époque, c'est-à-dire attirer, fidéliser, et bien, ils nous reviennent. Donc aujourd'hui, tout le monde rigole, il n'y a plus de régime spécial. Mais aujourd'hui, les RATP n'arrivent pas à embaucher. Voilà. Et je ne vous raconte même pas une fois qu'ils auront fermé le régime. La SNCF, c'est la même chose. Et résultat des courses, eh ben, tous les jours, on cale des trains, on cale des bus, faute d'attractivité, faute de personnel. Voilà. Donc on s'est bien marré.
On s'est bien marré, mais maintenant, il faut.
On s'est bien marré en disant ça y est, on leur a enlevé leur régime spécial. Et ben, résultat des courses, maintenant, vous vous retrouvez comme un con sur le quai à attendre votre train. Et le train, il est supprimé. Pourquoi? Parce que la SNCF n'arrive pas à embaucher des conducteurs de train. La SNCF n'arrive pas à embaucher des agents du matériel. Voilà, super. Quel succès. Voilà. Et sur l'énergie, on va enlever en pleine crise énergétique. Ou ça, c'est une petite piqûre de rappel, hein, comme quoi l'énergie c'est important. Voilà, on avait tendance à oublier. On allume la lumière, on a l'impression que bon bah d'un seul coup on se rend compte qu'il y a une crise énergétique. Super, on va affaiblir les salariés de l'énergie. C'est vraiment le bon moment d'affaiblir les salariés de l'énergie. Ou demain, alors aujourd'hui on a des problèmes de gaz, mais demain on aura peut-être des problèmes d'énergie. Pourquoi? Parce que peut-être qu'un jour EDF ne sera plus assez attractif et donc du coup elle aura du mal à embaucher et vous attendrez votre technicien comme un con à pas avoir de lumière chez vous. C'est ça qu'on veut? C'est ça qu'on veut? Non. Il faut, et moi c'est le débat qu'on a eu hier, il faut sur les métiers de redonner de l'attractivité aux métiers de la production.
Ça, on est bien d'accord.
Alors, Jean-Sébastien Ferjou.
Le sujet, c'est comment? Moi, c'est pas le point que je visais tout à l'heure. J'étais pas en train de vous dire il faut supprimer les régimes spéciaux. J'étais en train de vous dire il y a une majorité de Français qui sont pour la suppression des régimes spéciaux. Et donc, ça n'est pas dans la rue, ni parce qu'on estime des majorités comme ça au doigt mouillé, qu'on doit prendre des décisions dans le pays. Dans une démocratie, encore une fois, ça doit forcément passer par un processus à minima parlementaire. Mais après, il y a un autre point. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous sur l'attractivité. Mais l'attractivité, elle ne se pose pas. Dans ce cas-là, on n'a qu'à faire un régime spécial pour la restauration. On n'a qu'à faire un régime spécial pour toutes les professions qui ont de la peine à attirer. Le sujet, encore une fois, c'est ça qui manque. C'est celui du sens du travail et c'est celui de l'inscription de cette réforme-là, mais comme des autres qu'on devrait faire en matière de finances publiques, dans le monde dans lequel on vit. Les gens ont l'impression qu'ils sont confrontés à un environnement, parfois de manière exagérée d'ailleurs, de souffrance. C'est pas qu'ils ne veulent pas travailler plus, c'est que bien souvent, ils veulent juste ne pas être exposés plus longtemps à la précarité économique. D'où le fait que répondre à ça, comme le fait Emmanuel Macron en disant « Vous êtes vraiment déraisonnable, vous êtes vraiment irresponsable si vous ne voyez pas qu'il y a un problème d'équilibre comptable », lui, il est déraisonnable de ne pas se rendre compte que cette souffrance-là, cette crise du sens profonde, elle existe. On n'est plus dans les Trente Glorieuses. Nous ne sommes plus ni au moment de la création des régimes spéciaux, ni dans les Trente Glorieuses. L'angoisse, y compris climatique, de l'adaptation de nos sociétés, l'angoisse géopolitique, l'angoisse énergétique, elle est présente. Mais de l'ignorer, comme le fait le gouvernement, franchement, ça relève d'une forme de suicide politique.
Un tout petit point, sécurité et sources policières, Jean-Christophe Couvi, à 18h30, bilan provisoire, 38 interpellations pour port d'armes prohibées, outrage, rébellion, jet de projectiles, dégradation. On est sur un étage assez bas sur les interpellations.
C'est ce que j'allais dire, en fait, 38 interpellations sur des millions de personnes qui sont dans la rue, c'est peanuts. Donc on voit bien encore une fois que les black box, ils sont venus pour se battre et casser du flic, ils ont raté leur journée parce que les gens n'étaient pas là pour ça. Les gens étaient juste là encore une fois pour de la ferveur, pour montrer vraiment que le message ne passait pas et qu'on n'est pas du tout d'accord avec ça. Et je rebondis sur ce que dit Jean-Sébastien Ferjou, c'est actuellement, tout le service public sont en burn-out. Et c'est quand même pas que la police, parce que nous aussi, on a une morosité. Et d'ailleurs, les hautes instances chez nous le disent aussi. Hein. Notre technostructure dit la police, en ce moment, elle est un peu morose. Ben oui, on a tous des bleus à l'âme. Effectivement, quand on fait le tour des services publics, et c'est le management public qui, depuis 20 ans, a complètement changé. Et en fait, on prend les citoyens pour des clients. Et nous, on nous demande des objectifs chiffrés, on demande de la productivité, enfin, c'est de l'individualisation. On nous paye, on a inventé la chiffre, enfin, la prime au mérite, la politique du chiffre. Et en fait, ça a complètement enlevé le sens de tout le travail du service public. On est là pour rendre des services, nous, en fait. On n'est pas là pour produire du service.
Mais
on
rend des services aux gens. Mais vivre dignement de votre travail aussi.
Comment ?
Mais vivre dignement de votre travail aussi.
Mais en fait, les retraites, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on travaille, on veut vivre dignement de notre travail. On n'a pas forcément envie qu'on nous donne des chèques emploi-service, des chèques ceci, des chèques cela. Non, ce n'est pas ce qui remplit le frigo, ça. Ce qui remplit le frigo, c'est un salaire digne. C'est grâce au salaire, on peut faire des emprunts pour se projeter dans la vie, acheter une maison, acheter des voitures, payer des études à nos enfants. C'est ça qu'on veut, en fait. C'est ce que les Français veulent. Ils ne veulent pas être, j'allais dire, sous-alimentés avec des piqûres de chèques emploi énergie, de chèque énergie, etc. etc. C'est pas ça que veulent les Français. Les Français, ils veulent vivre de leur travail et surtout retrouver du sens au travail. Et c'est ce qu'on a perdu. Et vraiment, c'est ce qu'il faudrait maintenant, changer ce logiciel-là et essayer de revenir sur des bases saines.
Et arrêter de dire que les Français ne travaillent pas assez et ne veulent pas travailler.
Et arrêter d'opposer les Français les uns aux autres, les fonctionnaires au privé, les services, les retraites spéciales, etc. En fait, on ne fait que ça. On oppose toujours les Français, on ne leur explique pas d'ailleurs. On ne leur explique pas que c'est des conventions collectives qui ont été signées, en fait, en accord avec le patronat, justement. Donc tout ça, en fait, maintenant, on leur dit, oh là, ils sont nantis. Mais non, et on le voit nous aussi dans la police, on a du mal à recruter. Parce que la police n'attire plus forcément. On le voit tous les jours dans les faits divers, on voit tous les jours dans les attentats. Mmh. Bah oui, il y a des jeunes qui hésitent à venir rentrer dans la police. Et c'est tous les corps de métier du service public.
Bien sûr.
On parle beaucoup.
Il y a une bombe dans la réforme en question, hein, parce que le fait de la fameuse clause du grand-père, vous savez, qui fait que les régimes spéciaux justement ne s'appliqueront qu'à ceux qui étaient déjà rentrés et pas aux nouveaux. Faire coexister dans les mêmes structures publiques ou mêmes entreprises publiques deux catégories avec des statuts très différents. Vous l'évoquiez tout à l'heure. On l'a vu à la SNCF. Le conflit des contrôleurs, il est né de ça, justement. Et ça, il n'y a rien qui est imaginé, rien qui est projeté sur la réforme du management public. Mais bon courage, parce que souvenez-vous ce qui s'est passé à France Télécom, les suicides, etc. C'est parce que, oui, vous essayez de faire partir plus vite des gens qui ont d'anciens droits et qui n'ont pas forcément, d'ailleurs, la logique ou l'état d'esprit souhaité dans une nouvelle entreprise. Mais en soi, qu'il faille adapter les choses, oui, tout le monde peut le concevoir. En revanche, il ne faut pas faire l'économie de l'accompagnement de ces mesures-là, parce que sinon, les bombes sociales, nous les retrouverons tous les trois mois. Et moi, je vous disais qu'on prend les Français pour des clients. Moi, je pense que le gouvernement les prend surtout, en tout cas la technocratie, les prend surtout pour des administrés, c'est-à-dire pour des mineurs qui ne comprendraient pas leur propre vie, et on les administre. Changeons de logiciel, parce que sinon, on n'y arrivera jamais.
Effectivement, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Nous sommes dans une logique court-termiste, puisqu'on cite beaucoup, depuis le début de ces débats autour de la réforme des retraites, et notamment le recul de l'âge légal de départ à la retraite, ce rapport du COR, le Conseil d'orientation des retraites, mais on occulte une partie qui est le niveau de vie relatif des retraités. Aujourd'hui, le niveau de vie relatif des retraités est supérieur au niveau de vie de la population active. Sauf qu'à partir de 2030, le niveau de vie relatif des retraités baisse continuellement pour atteindre 70%, c'est-à-dire que les personnes qui cotisent aujourd'hui, qui entrent sur le marché du travail aujourd'hui et vont cotiser pendant 43 ans, puisque c'est la réforme Touraine, même si on ne va pas jusqu'au bout de la réforme proposée par Emmanuel Macron, vont avoir un moins bon niveau de vie que les personnes à la retraite aujourd'hui. Et cela, personne n'en parle. Ça sera bien pire, de l'ordre de 30%. C'est énorme.
Et c'est d'autant plus énorme que ça sera très injuste, que les gens qui sont propriétaires de leur logement peuvent subir une baisse de leur revenu. Ceux qui doivent continuer à assumer des coûts de logement, c'est la double peine. Et ça, on ferait mieux de faire des vraies réformes du logement, des vraies réformes de réglementation foncière, des vraies réformes de tout ce qui crée, regardez, il faut savoir ce qu'on veut, parce que là, par exemple, on va sortir la moitié des logements du parc locatif. Mais pour les retraités, dans des réformes comme ça, ça va être tragique, notamment des gens, imaginez, qui vivent en région parisienne, par exemple, en banlieue, ils arrêtent de travailler, ils aimeraient partir ailleurs, retourner dans leur région d'origine, il n'y a rien à louer. Et puis quand vous avez plus de 65 ans, ce n'est pas une banque qui va vous prêter de l'argent, et personne ne va vous louer non plus un logement, parce qu'il n'y en a pas. Et ces questions-là, elles sont centrales, c'est pour ça que cette réforme, elle est comptable, parce qu'elle passe, mais à côté de tellement d'enjeux, de défis qui sont ceux de la société française aujourd'hui, que je vous dis, c'est une absurdité politique.
Fabien Villedieu,
il y a quand même vachement d'autres choses à faire qu'une réforme des
des retraites.
Oui, voilà. Ouais,
sur le service public, sur l'énergie.
Pour accompagner une réforme des retraites.
En tout cas, moi, j'ai pas envie d'accompagner une mauvaise réforme des retraites. Moi, je pense que notre système de retraite a des défauts. Par exemple, le problème qu'il va y avoir de baisse de pension en est un. Mais je trouve qu'on a quand même, comparativement à ce qui se pratique ailleurs, un bon système de retraite. Voilà. Et c'est parce que. Pourquoi il y a 1 million de personnes dans la rue ? Parce que les gens, ils en sont attachés.
Deux, dit M. Martinez, deux.
Deux, voilà. Allez, là, on va couper la poire en deux, 1,5 million. Voilà.
Allez, un dernier petit saut à la manifestation avec Augustin Donadieu, Jules Bedeau. Ça y est, tout le monde est en train d'arriver, place de la Nation, ça se termine tranquillement.
Ça se termine tranquillement, toujours dans une bonne ambiance pour cette queue de cortège partie de la place de la République aux alentours de 17h, alors que la tête de cortège a quitté cette place de la République à 14h. C'est pour vous dire le nombre de manifestants qui étaient rassemblés ici dans les rues de la capitale. Ces manifestants qui n'étaient pas au courant des heurts qui ont éclaté tout à l'heure entre les forces de l'ordre et certains manifestants violents, puisque je vous le dis et vous devez l'entendre autour de nous, c'est une très bonne ambiance qui règne ici parmi les manifestants de tous âges. Il y a aussi bien des enfants avec des pancartes, des personnes déjà à la retraite ou des travailleurs. Vous les avez d'ailleurs entendus sur nos antennes, ces manifestants qui ont répété vouloir continuer le combat jusqu'au retrait de cette réforme des retraites. Ils s'étaient dit satisfaits de cette mobilisation à la fois sur le plan national et également à Paris, puisqu'ici ce sont près de 400 000 personnes selon les premiers chiffres, 400 000 personnes qui auraient défilé dans les rues de la capitale.
Merci beaucoup Augustin Donadieu, Jules Bedeau, merci à toutes les équipes aussi Europe 1 et CNews qui nous ont fait vivre cette manifestation. Un dernier mot, Fabien Villieu, par Olivier Dussopt, ministre du Travail en charge des retraites, dit oui, il y avait une mobilisation importante, donc il faut qu'on continue à convaincre, donc pas de retrait de la réforme.
Non mais les Français sont pas bêtes quoi. Ils ont compris la réforme. On n'est pas là. J'ai l'impression qu'en permanence, au bout d'un moment, on dit mais non, stop, on a compris ta réforme, on n'en veut pas. Voilà, on n'en veut pas. Mais les Français, ils ont compris la réforme.
Ils l'ont. Tiens, c'est Mathieu Ferjou. Avec vous, c'est un peu absurde de répéter en boucle. Oui, ils ont compris les mesures principales. Mais il y a quand même des dispositifs prévus sur les carrières longues, sur les revenus minimaux. Enfin, vraiment, il y a des dispositifs qui passent relativement inaperçus parce que la mesure d'âge prend toute la lumière et concentre les critiques. Il y a quand même un volet social qui est incontestable dans cette retraite.
Il y a peut-être des marges de manœuvre, c'est ça que vous nous dites un petit peu, peut-être, pour le
gouvernement ? Non, mais après, comme vous l'avez compris, je trouve que cette retraite n'est pas très justifiée à l'heure actuelle. Mais si on est honnête, il y a un volet social dans cette réforme qui est proposée par le gouvernement.
Jean-Christophe Couvi, le dernier mot après cette manifestation. Le gouvernement veut vous convaincre, vous ne l'êtes pas. Donc qu'est-ce qui va se passer ?
Moi, je ne suis pas du tout convaincu non, par le gouvernement. Et d'ailleurs, on voit bien qu'ils ont aussi beaucoup de mal à essayer de convaincre. J'en vois beaucoup des députés et des ministres qui rament quand même. C'est un peu compliqué. Ils vont sortir les pagaies parce qu'effectivement, les Français ne le comprennent pas. Et en fait, on le voit aujourd'hui. Si vraiment on avait été convaincus dès le départ, puisqu'on nous a vendu le concept, etc., il n'y aurait eu personne dans la rue. Donc on voit bien que quand on annonce 2 millions de personnes et qu'on voit la ferveur des gens, et les gens, à mon avis, ils ne sont pas prêts de lâcher. Et donc là, il va falloir que ce message-là, il remonte. Il va falloir surtout que voilà, on en prenne compte. Et je pense que dès ce soir, il va commencer à y avoir des petits coups de fil, à mon avis, pour prendre le pouls et savoir ce qu'on fait après. Voilà.
Merci en tout cas d'être venu, Monsieur Couvi, Monsieur Villieu, Jean-Sébastien Ferjou et Florian Tardif. On va continuer évidemment à suivre cette mobilisation contre la réforme des retraites sur nos deux antennes, à la fois CNews et Europe 1. CNews avec Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info, et Europe 1, Hélène Zélani, Raphaël Devolvé. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes.